deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à Olympe de Gouges et plus largement aux femmes pendant la Révolution française. Vous savez peut-être, depuis cet été, eh bien, une discussion fait rage en France. Qui va-t-on panthéoniser? Qui, François Hollande, choisira-t-il pour pouvoir entrer dans ce temple républicain qu'est le Panthéon? Et cette discussion tourne autour en particulier de la possibilité de faire entrer au Panthéon Olympe de Gouges. Nous tentons de comprendre donc toute cette semaine qui était la personnalité de Olympe de Gouges, qui était-elle, comment a-t-elle agi avant et pendant la Révolution française. Hier, le témoignage de l'écrivaine donc Benoît de Groux, qui a consacré récemment un ouvrage à Olympe de Gouges, nous a servi d'introduction entre mythes et légendes, utilisation également par le féminisme contemporain de la figure d'Olympe de Gouges. Demain, nous nous demanderons quelle était la place des femmes pendant la Révolution française, et jeudi, nous traiterons d'histoire des femmes et d'histoire de l'esclavage. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire du mardi est signé Séverine Yattard et Séverine Cassard, et il nous dresse le portrait de cette femme née en 1748, Marie Gouze, veuve à 20 ans, qui monte à Paris, qui devient écrivain de théâtre, qui rédige pendant la Révolution française la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avant d'être guillotinée. C'est cette histoire qui est racontée par ceux qui la connaissent, Olivier Blanc, Clarissa Palmer, Elsa Solal, Annie Vergne, José-Louis Boquet et Catel Muller, avec des textes lus par Hélène Losseur.
Ça a été le miracle quand on a commencé à travailler sur Olympe, parce qu'on avait gardé des souvenirs du XVIIIe siècle, qui étaient un peu des souvenirs scolaires, période compliquée, en particulier la Révolution. Et donc, quelle était notre distance? Le XVIIIe siècle, c'est un peu un monde de martiens. Il n'y a aucune correspondance avec le nôtre. Le seul miracle, c'est un personnage comme Olympe, qui, elle, reste dans ses propos, dans son combat, d'une modernité absolue. Et ils sont très peu nombreux de ses contemporains, qui pourraient être nos contemporains. C'est Condorcet et Sophie de Condorcet, en gros. Après, dès qu'on commence à creuser un peu, on s'aperçoit qu'ils pensent tous quand même qu'on peut discuter un peu avec les femmes, mais pas trop tout de même. Tu vas me dire qu'encore aujourd'hui, il y a quand même sans doute une grande partie de la population masculine qui doit penser comme beaucoup d'hommes au XVIIIe siècle. Mais au moins, au niveau des lois, elles ont évolué. Ça, c'est grâce à des femmes comme Olympe. Il n'y a pas à tortiller là-dessus.
C'est pour ça que j'ai eu un coup de foudre. Moi, c'est parce qu'elle a une espèce de courage incroyable et de force de liberté qui vient de sa pensée, qui vient de sa création.
Olympe de Gouges, une femme du XXIe siècle.
Principalement, ce que je voulais, c'était qu'on comprenne qu'Olympe était vraiment une personnalité avec beaucoup d'intérêt et non seulement du point de vue féministe, parce que j'avais remarqué qu'on avait fait beaucoup d'études sur elle, surtout aux États-Unis, et que si on avait entendu parler d'elle, c'était du point de vue féministe. Et à mon avis, c'était quelqu'un avec une largeur d'esprit qui était étonnante, qui avait eu des idées sur la fiscalité, sur l'esclavage, le pacifisme,
la peine de mort,
enfin beaucoup de sujets, et que c'était vraiment une femme étonnante. Et je trouvais que c'était presque la seule femme qui était vraiment restée sur place jusqu'à sa mort, avec un courage étonnant.
C'est quelqu'un à qui on prête des intentions qu'elle n'avait pas nécessairement, en fait. Son combat n'a jamais été exclusivement féministe, elle n'a jamais été une féministe radicale, ça s'inscrit beaucoup plus dans un humanisme. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, à mon avis, touche les nouvelles générations et explique le regain d'intérêt pour ce personnage.
Née en 1748, Marie Gouze, veuve à 20 ans, quitte son Quercy natal pour rejoindre la capitale avec son fils. Elle parvient peu à peu à fréquenter la société artistique et intellectuelle du Paris des Lumières. Sa passion est le théâtre, et elle va bientôt s'y consacrer entièrement à une époque où la scène est un moyen pour intervenir dans le débat public. Dans sa pièce « Zamor et Mirza » ou « Le Renaufrage », elle prend parti pour l'abolition de l'esclavage. À partir de 1788, elle publie son premier pamphlet « Lettre au peuple », puis des articles où elle élabore un programme de réforme sociale et politique. La pensée toujours en chantier, Olympe de Gouges est une femme d'idées. Avec son art de la rhétorique, elle intervient sur les événements de la période révolutionnaire en publiant un nombre considérable de textes. Peu soucieuse de rester discrète alors que son statut de femme l'exige, elle écrit également en 1791 sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui obtient peu d'écho à l'époque, mais préfigure la pensée féministe moderne. Favorable à une société démocratique, hostile à la terreur et à l'intervention populaire, Olympe de Gouges est longtemps dépeinte avec mépris, comme une exaltée politique, une virago, une auteure sans grand intérêt ou une courtisane. Aujourd'hui, cette oubliée de l'histoire guillotinée pour ses idées est considérée comme une humaniste visionnaire. Elle est même actuellement pressentie pour entrer au Panthéon. Ses textes sont réédités, sa vie et son œuvre inspirent des écrivains et sont adaptés au théâtre ou même en bande dessinée.
Depuis l'enfance, j'étais passionné par l'histoire de la Révolution et le personnage d'Olympe de Gouges me paraissait un peu mystérieux.
Olivier Blanc, historien.
J'avais lu ici et là des notices concernant Olympe et c'était très contradictoire et toujours pouvant donner lieu à des interprétations qui, à terme, se sont révélées absolument fausses. Enfin, c'était des stéréotypes. Je suis aussi arrivé à un moment de ma vie, c'était mai 68, où on parlait beaucoup des mouvements de femmes et j'avais des amis qui étaient très impliqués dans ces mouvements-là et qui militaient au MLAC et à toutes sortes d'associations proches du MLF. On parlait d'Olympe de Gouges, elle était citée, mais personne ne pouvait véritablement dire quelque chose de cohérent à son sujet. Ça tenait en effet à finalement l'imprécision documentaire entourant ce personnage. Et donc ça m'a semblé intéressant de faire un peu la part des choses et d'aller aux archives en particulier, où j'ai pu donc exhumer un certain nombre de documents la concernant, et notamment les archives de la Comédie-Française, les archives des notaires, enfin tous ces documents qui sont absolument indispensables pour faire une biographie digne de ce nom. Olympe de Gouges est exclue du champ universitaire pratiquement jusqu'à la publication de ma biographie. Elle appartient au monde de l'anecdote, à ce qu'on appelait la petite histoire. Il n'y a pas, à mon avis, de petite histoire. Il y a éventuellement des petits historiens, mais chaque sujet peut être traité d'une manière intéressante, et particulièrement dans le cas d'Olympe de Gouges. Alors il faudra attendre, vous savez, 2003 pour que le premier colloque sur les femmes de la Révolution soit organisé par Raymonde Monnier et Christine Fauré. J'ai pu donc participer à ce colloque et donc il a été question largement d'Olympe de Gouges et d'autres femmes emblématiques des droits nouveaux à cette époque-là.
Clarissa Palmer, historienne et co-auteure avec Annie Vergne de la pièce de théâtre Olympe de Gouges, porteuse d'espoir.
J'ai soutenu une thèse sur Malesherbes au départ, et ensuite j'ai voulu faire un master en biographie. Et en travaillant Malesherbes, j'avais appris des choses sur Olympe de Gouges que je trouvais passionnantes. Et j'ai donc décidé de faire une thèse sur deux personnes à la même fois, ce qu'on m'avait dit était en principe assez difficile, mais j'ai trouvé que c'était passionnant. Et c'était pour les deux des voix qu'on n'a pas voulu écouter à leur époque. Et pour moi, Olympe, c'était quelqu'un à qui on avait littéralement coupé la parole. Et je voulais vraiment remettre cette personnalité, qu'on en reparle, je voulais qu'on lui rende la parole. Et je me suis dit qu'une pièce sur elle, ça serait vraiment intéressant. Et donc, j'ai contacté Annie pour voir si ça lui ferait plaisir de travailler sur un projet pareil. Et heureusement, elle a dit oui.
Lorsque Clarissa m'a proposé d'écrire une pièce à partir donc, des écrits de l'âme de Gouges,
Annie Vergne, dramaturge et comédienne.
Bon, moi, je me suis lancée avec une énorme avidité sur tous ses écrits politiques, puisque je la connaissais moins que Clarissa. J'avais du retard par rapport à Clarissa qui soutenait cette thèse. Et bon, j'ai rencontré une femme qui m'a subjuguée, une femme absolument passionnante. Et voilà, on s'est lancé dans un travail à quatre mains, je vais te dire. Clarissa apportant de son côté les écrits d'Olympe qu'elle avait déjà dans sa besace. Et ce qu'on a tout de suite mis en évidence, c'était le fait qu'on voulait parler de notre époque. Et donc, on voulait vraiment mettre en parallèle le XXIe siècle et la Révolution. Et voir par rapport à tout ce qu'avait proposé Olympe, enfin tous les combats d'Olympe, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à faire?
ce serait un coup de foudre pour ce personnage que j'ignorais, que j'ai découvert à travers les écrits d'Olivier Blanc.
Elsa Solal, écrivaine et auteure de la pièce de théâtre « Olympe de Gouges ».
Mais c'est aussi tout un parcours dans mon travail d'écrivain ou de dramaturge. Le premier sur la violence faite aux femmes, qui est un livre qui s'appelle « L'autre guerre ». Alors, je suis passée de ce travail sur la place de la femme dans l'espace public à ce travail sur ce personnage. Et ce qui m'a fascinée, c'était sa vie de femme, de mère, d'amante, d'amoureuse, d'amie, de créatrice. C'est extraordinaire, cette capacité de penser seule, de se lever comme ça au milieu du siècle et d'aller penser, agir, créer. Bref, elle mélange tous les domaines qui sont interdits aux femmes, et notamment celui de l'écrit et de la création.
José-Louis Boquet et Katel Muller sont les auteurs d'une bande dessinée sur Olympe de Gouges. Katel Muller est graphiste et José-Louis Boquet est scénariste.
On a d'abord travaillé sur Kiki de Montparnasse, qui nous semblait un personnage rebelle, qui nous semblait un modèle féminin extrêmement intéressant, parce que justement, à contre-temps de la société de son époque, donc ouvrant des portes, et commence à émerger dans les librairies et chez les éditeurs et chez les majors, le format roman graphique. Nous, il nous fallait grosso modo 350 pages. Donc Kiki, et ça a été un succès en fait, hein. Et on s'est dit qu'il fallait profiter de ce succès pour aller un cran plus loin, je dirais même dans notre réflexion consciente sur le travail qu'on était en train de faire. Donc continuer à faire un portrait de femme, et il fallait que ça ait du sens, il fallait que ce soit encore la possibilité de transmettre des idées. Et on s'est dit, voilà, c'est à ça qu'on doit utiliser notre succès, et peut-être un public qui va nous suivre, c'est lui faire découvrir un personnage fondamental de l'histoire de France et que tout le monde a oublié.
Quand il m'a proposé, parce que l'idée venait de lui, Olympe de Gouges,
Katel Muller.
C'était un choix intellectuel et c'était carrément aller sur la planète Mars pour moi, de raconter le XVIIIe siècle que je n'avais pas vraiment compris à l'époque de mon bac. La Révolution française me paraissait très compliquée, et alors en plus de la représenter, je ne voyais pas comment on allait s'en sortir. C'était un défi en fait, et en même temps ça me paraissait absolument nécessaire quand j'ai commencé un peu à plonger dans la vie d'Olympe, de lire le livre d'Olivier Blanc, ceux de Benoît, tout ce qui a été écrit autour d'elle. Peu de choses finalement, mais bon, suffisamment pour qu'on se rende compte de l'importance du personnage. Et on s'est dit, il faut absolument le faire, mais comment le faire? Alors a commencé une mission pour lui et pour moi de recherche pendant un an. Aussi bien de lecture que d'images, d'aller dans les villages du livre comme Bécherel pour trouver des livres anciens avec des représentations, des gravures, chercher sur Internet, chercher dans les bibliothèques, interviewer des gens. Tout ce qu'on a pu faire marcher comme réseau et comme mode de fonctionnement et de recherche, on l'a fait pendant une véritable année avant de démarrer le travail. En ce qui concerne par exemple Olympe et son portrait, on avait un petit souci parce qu'il existait à peu près 5-6 représentations d'Olympe, mais totalement différentes l'une de l'autre. Donc impossible de savoir à quoi elle ressemblait. Un coup elle avait un nez busqué, après un petit nez retroussé, un coup elle était plutôt plantureuse et après c'était plutôt une grande maigre plate. Comment savoir à quoi elle ressemblait? Et c'est finalement par des descriptions plutôt littéraires que je suis arrivée à reconstituer le personnage. On disait qu'elle était grande, il y avait d'ailleurs une description de passeport à un moment donné où elle a passé une douane, où elle était décrite avec son nez, ses yeux, sa taille, son comportement aussi. Louis-Sébastien Mercier qui disait que c'était une des plus jolies femmes de Paris dans ses tableaux de Paris, qu'elle était pétillante, qu'elle était une brunette du Sud. Petit à petit est venue la façon dont je me la suis imaginée, mais je pense qu'il est assez conforme à ce qu'elle devait dégager. En tout cas, et voilà, personne n'a contesté jusque-là l'allure de ce personnage. Et puis surtout, voilà, je me la suis appropriée, parce que ce qui était important finalement, c'était la justesse du personnage, parce qu'on ne fait pas des biographies qui voudraient concurrencer celle d'un Olivier Blanc qui est un scientifique et qui décrit des faits, et qui a fait un grand travail de longue haleine sur réellement les faits tels qu'ils ont été. Nous, on est bien obligés à un moment donné d'inventer les interstices entre les faits pour mettre en scène, tout comme un cinéaste, et trouver vraiment la justesse du propos plus que la vérité à ce moment-là.
Olympe universelle, fille de Pompignan, Olympe universelle.
Donc Olympe de Gouges était belle, même très belle. Plusieurs...
Olivier Blanc.
Autres de ses contemporains le disent, le chevalier de Cubières. Et curieusement, leurs témoignages ont tous été écartés au profit de tout ce qui est plus venimeux et faux et mensonger. Quant à physique de l'homme de Gouges, on connaît son signalement, on connaît sa taille, on sait, elle avait des passeports, on a une description de physique très précise. Elle était brune, elle mesurait 1m68, elle était svelte. Et puis on possède ses portraits et il existe un portrait au pastel où on voit une jeune femme au visage très régulier. Et il existe aussi un dessin conservé au Louvre qui d'ailleurs s'inspire de ce pastel où, en tout cas, les deux œuvres ont un rapport où effectivement, elle est c'est plutôt une belle femme. Et on la voit avec un livre à la main, ce qui doit faire taire ses détracteurs dans le portrait du Louvre. Et donc, ça permet de dire que véritablement, elle savait lire et écrire. Parce que la question de savoir si elle savait lire ou écrire a été posée aussi au XIXe siècle. Et on est resté d'ailleurs dans le flou, un flou entretenu, jusque pratiquement ma biographie pour montrer que Olympe de Gouges savait lire et écrire. Si on avait au moins pu lire les lettres qu'elle a écrites de prison, sans secrétaire, on verrait bien qu'elle savait parfaitement écrire, même si son style était défaillant, son orthographe aussi, ce qui est d'ailleurs le fait de tous les gens de cette époque-là. J'ai lu plusieurs centaines de lettres écrites par des prisonniers de la terreur, des hommes, des femmes de toutes origines. Et les femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie, à cette époque-là, écrivent comme Olympe de Gouges, avec beaucoup, beaucoup de fautes de syntaxe, de style, de fautes d'orthographe, pas de ponctuation. Donc c'est tout à fait injuste de lui faire un procès comme on l'a fait. Olympe a une existence tout à fait romanesque. Ça commence avec la décision prise par elle de ne pas se remarier. Biétrix de Rosières va lui proposer le mariage et elle raconte qu'elle l'a refusé parce qu'elle ne voulait pas de ce mariage tel qu'il existait dans sa forme à l'époque. Probablement, elle n'en parle pas beaucoup, mais elle était probablement sensibilisée à ces questions donc de femmes battues qui, à mon avis, devaient exister autant qu'aujourd'hui. Et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de recours, de solution pour ces femmes victimes de mauvais traitements. Et je parlais tout à l'heure de ces procès en séparation qui commençaient donc à apparaître en fait à la fin du règne de Louis XVI et qui étaient suivis avec beaucoup d'attention par des jeunes femmes. D'après les chroniques de l'époque, on voit qu'il y a une sensibilisation à ces questions-là. Donc le choix qu'Olympe de Gouges fait de vivre hors mariage se comprend assez bien. Et effectivement, au XIXe siècle, on va en tirer un certain nombre de conclusions, on va interpréter les choses un peu abusivement et imaginer qu'elle est une sorte d'aventurière, en fait. Et puis en plus, elle a ce pseudonyme de Olympe de Gouges, son véritable nom est Marie Gouze. Et à la Belle Époque, on fait assez facilement des amalgames entre Liane de Pougy et Olympe de Gouges. Enfin, ça sonne comme un nom de courtisane. Mais non, absolument pas. C'est ni une courtisane, ni une aventurière, ni une femme violente, ni une femme vénale. On est très éloigné de cela. Alors, ce qui est très intéressant à dire, c'est qu'il y a un parallèle entre ce qu'on dit de l'âme de Gouges à telle et telle époque et l'idée qu'on se fait de la femme. En réalité, on va voir une évolution du regard sympathique ou moins sympathique sur Olympe selon les époques. Alors, à l'époque de sa mort, en 1793, un certain nombre de chroniqueurs politiques ont donné d'elle une image très noire, reprenant ce que Fouquier-Tinville développe dans son acte d'accusation. Et c'est un peu sur cette position de Fouquier-Tinville qu'on va asseoir le regard futur sur Olympe de Gouges. Et pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'au moment où on va enfin pouvoir utiliser des documents nouveaux, on va prolonger ce regard misogyne très particulier sur Olympe. L'idée, c'est en fait la femme engagée en politique est une femme publique, en fait. Et donc,
une prostituée.
Oui, en fait, il y a une sorte de parallèle qui n'est pas dit vraiment. Enfin, mais c'est un peu ce qui ressort. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, et d'ailleurs au-delà, on reprochera aux Olympe de Gouges ou des femmes comme elle, en fait, de vouloir produire autre chose que des enfants et sortir d'un rôle traditionnel que les révolutionnaires ultra recommandaient pour les femmes révolutionnaires. Les romantiques vont essayer, faute de mieux, de lui inventer une personnalité qui correspond absolument pas avec ce qu'elle était. Souvent, ce sont des petits articles sur Olympe de Gouges qui paraissent dans des revues, la Revue Bleue, la Petite Revue, la Grande Revue, enfin, et qui ont finalement des visions très stéréotypées du personnage. Et ces visions vont perdurer jusqu'à Alain Decaux, par exemple, qui, dans l'histoire des Françaises, va à nouveau donner de Olympe de Gouges une image qui ne correspond pas véritablement à sa personnalité, même pas du tout. C'est simplement à partir de, enfin on peut dire une date, 1912, c'est l'année de la publication du tome 10 du répertoire historique de la Révolution française par Alexandre Duthé, dans lequel il y a tous les actes du procès d'Olympe de Gouges, des lettres, une documentation très importante qui va permettre à certains érudits de la période de l'entre-deux-guerres de donner d'Olympe de Gouges une image un peu plus conforme à ce qu'elle a été en réalité.
Elle pense et elle agit.
Elsa Solal.
Elle apprend à écrire, à lire, et elle participe à cette révolution et à cette scène de l'époque à travers différentes choses qui sont pour moi très importantes. Elle choisit l'écrit. La création, l'écriture, c'est du domaine du savoir qui est réservé à ceux qui ont de la barbe au menton. Alors elle s'empare de ce domaine qui est donc réservé aux hommes en 1789. C'est un acte fort de s'emparer de ce privilège qui était masculin. Par ailleurs, elle ne se contente pas d'écrire la Déclaration des droits de la femme, ce qui à l'époque est inimaginable. Elle s'occupe de la lutte contre l'esclavage, elle propose des réformes sociales, elle fait un véritable programme politique pour les enfants abandonnés, pour les mères qui accouchent dans des lieux et qui meurent en couche, pour les vieillards. Et elle propose un impôt sur la fortune pour financer son programme social, en quelque sorte. Donc, elle est dans l'action politique et elle est dans la réinvention du monde, la redistribution symbolique des rôles à l'intérieur même des conventions théâtrales. Dans une de ses pièces, elle fait des noirs, des nègres, comme on disait à l'époque, les héros de sa pièce. Ce qui soulève un tollé et qui lui vaut une lettre de cachet.
Réflexion sur les hommes nègres. Février 1788.
L'espèce d'homme nègre m'a toujours intéressée à son déplorable sort. À peine mes connaissances commençaient à se développer, et dans un âge où les enfants ne pensent pas, que l'aspect d'une négresse que je vis pour la première fois me porta à réfléchir et à faire des questions sur sa couleur. Ceux que je pus interroger alors ne satisfirent point ma curiosité et mon raisonnement. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d'êtres que le ciel avait maudits. Mais en avançant en âge, je vis clairement que c'était la force et le préjugé qui les avaient condamnés à cet horrible esclavage, que la nature n'y avait aucune part, et que l'injuste et puissant intérêt des Blancs avait tout fait. Pénétré depuis longtemps de cette vérité et de leur affreuse situation, je traitais leur histoire dans le premier sujet dramatique qui sortit de mon imagination. Plusieurs hommes se sont occupés de leur sort, ils ont travaillé à l'adoucir, mais aucun n'a songé à les présenter sur la scène avec le costume et la couleur, tel que je l'avais essayé, si la Comédie française ne s'y était point opposée.
Sa pièce la plus forte, à mon sens, c'est la pièce sur l'esclavage des Noirs, qui va être créée à la Comédie française en décembre 1789 et qui sera publiée en 1792. Elle va distribuer cette pièce à tous ceux qu'elle connaît, entre autres, enfin tous les Amis des Noirs. Il y a un club des Amis des Noirs qui est là, c'est un lobby qui s'oppose à un autre lobby, celui des propriétaires coloniaux, qui sont réunis au club de Massiac. Et Olympe de Gouges donc, va lutter plusieurs années contre ces colons qui vont faire en sorte que le débat sur l'abolition de l'esclavage ne soit pas mis à l'ordre du jour sur la Constituante. Et après la déclaration de guerre, on va être obligé de repousser encore les choses. Il va y avoir le procès du roi et la question de l'esclavage ne sera remise à l'ordre du jour que sous la Convention au printemps 1794. Il y aura la première loi abolissant l'esclavage. Mais Olympe s'implique très largement dans ces combats à travers son théâtre, qui est un théâtre engagé. Elle va proposer à la Comédie-Française d'autres pièces. Le marché des Noirs, qui sera refusé par la Comédie-Française, dont malheureusement le manuscrit est perdu. Et puis d'autres pièces politiques en deux, trois actes, enfin, qui sont restées à l'état manuscrit. Ce théâtre s'ajoute comme son autre théâtre, qui était un théâtre de divertissement, toujours avec des thématiques qui lui sont chères. Elle va publier sa première pièce de théâtre en 1785, qui s'appelle « L'homme généreux ». C'est sur les gens emprisonnés pour dette, sans moyen de pouvoir se sortir de cette ornière. Et donc, elle va écrire une pièce mettant en scène un Rouennais père de famille qui est arrêté. Sa femme est invalide, les enfants meurent de faim. Enfin, elle va vraiment tout faire pour obtenir la libération de cet homme. Et elle va demander l'aide de Madame de Genlis, d'ailleurs, pour ça. Et puis, elle va écrire une autre pièce de théâtre dont on va beaucoup parler. C'est Molière chez Ninon, qui est une de ses meilleures pièces de théâtre. Elle parle beaucoup de Ninon de l'Enclos dans ses écrits. C'est un peu un modèle pour elle. C'est le modèle de la femme libre. Elle-même est une femme libre au sens noble du terme. Ninon de l'Enclos, c'est une personnalité très extraordinaire qui a beaucoup frappé les intellectuels du XVIIe siècle. C'est une femme qui avait été femme galante, qui avait créé une sorte de bureau d'esprit, en fait, réunissant des écrivains, des scientifiques et ce qu'on appelle un salon, en fait. Et Ninon de l'Enclos avait beaucoup frappé son entourage par la liberté de sa réflexion et elle avait inventé, on peut dire, un modèle de femme libre qui avait beaucoup intéressé Olympe de Gouges, qui l'a fait intervenir dans sa pièce de théâtre Molière chez Ninon.
Elle est d'abord dramaturge.
José-Louis Boquet.
Parce qu'à ce moment-là, la meilleure façon de s'adresser au maximum de gens, c'est d'écrire des pièces de théâtre. Et elle va être une auteure reconnue pendant la Révolution parce qu'elle va être une auteure politique. On a gardé évidemment sa pièce contre l'esclavage qui va être jouée en 1989 à la Comédie-Française, enfin deux siècles après. Alors que ça aurait été joué que trois jours. Mais surtout, son grand succès de l'époque, c'est la dénonciation du couvent. À cette époque-là, les hommes ont le droit d'enfermer, donc de mettre en prison leur mère, leur fille, leur femme. Donc c'est une auteure politique. Et puis, à un moment donné, avec l'emballement de la Révolution, elle laisse quasiment tomber les pièces de théâtre pour aller s'afficher. Quand je dis s'afficher, c'est-à-dire c'est quasiment le principe du dazibao qu'on va connaître plus tard en Chine, c'est que ce qu'on a à le dire, on l'imprime sur des affiches et on le colle. Elle va se ruiner à ça. Hein, parce que ça coûte cher, c'est elle qui paye les imprimeurs, les trucs et les machins.
Et puis aussi, elle s'est aussi très investie dans le combat pour les plus pauvres, les déshérités, les chômeurs, les malheureux. Elle y revient sans arrêt, jusque dans son dernier écrit en prison, deux mois avant d'être exécutée, elle va à nouveau parler de ces questions-là, aborder la question sociale, toujours sous un angle très généreux. Il y a vraiment de sa part beaucoup de dons de soi, enfin, elle a c'est une philanthrope, enfin, et au-delà.
Oui, puis elle a un avis politique sur la Révolution et le déroulé de la Révolution française. Elle voudrait que cette Révolution se déroule sans effusion de sang, elle est contre la peine de mort, et elle est proche des Girondins.
Alors, au-delà de son engagement politique auprès des Girondins, c'est quelqu'un qui veut donner une respectabilité à l'engagement politique des femmes. Elle veut donner une visibilité à cet engagement politique, ce qui, à l'époque, est inenvisageable, en fait. Elle crée un par toutes sortes de démarches, enfin, en voulant participer à des manifestations publiques, le transfert des cendres de Voltaire, la cérémonie en l'honneur de Simoneau, le maire d'Étampes tué au cours d'une insurrection. Donc c'est la fête de la loi, le 3 juin 1792. On va la voir à nouveau manifester dans des cortèges de femmes qu'elle organise elle-même le 14 juillet 1792. Donc elle veut donner cette visibilité, cette respectabilité à l'engagement politique au féminin. Et ça, c'est très nouveau. À l'époque, on a ou bien des femmes qui sont utilisées comme témoignes de Méricourt, enfin, dans un but populiste, en fait, on va dire, des femmes qui ne sont pas nécessairement des intellectuelles, mais qui sont très présentes donc, dans les mouvements de foule. Et à l'inverse, on a des femmes qui font de la politique dans les salons, dans les cercles politiques, et qui, en fait, restent dans une sphère privée et qu'on ne voit jamais, mais qui ont une véritable influence auprès des élus, des députés, ministres de ces époques-là, de 1791-92. Alors, Olympe de Gouges est une personnalité beaucoup plus solaire. Elle s'expose, elle signe ses articles, elle signe ses affiches de son nom, elle les fait placarder dans tout Paris. Elle a un sens de la communication très nouveau, très moderne, et elle est la seule, véritablement, à cette époque-là, à agir de la sorte. Et d'ailleurs, elle est la seule femme condamnée à mort pour la publication d'écrits politiques sous la Terreur. Donc en ce sens, elle a vraiment inventé quelque chose. La femme politique moderne lui doit beaucoup.
Réponse à la justification de Maximilien Robespierre adressée à Jérôme Pétion, président de la Convention. Novembre 1792.
Je sais que vous n'approuverez pas quelques expressions fortement prononcées contre Maximilien Robespierre. C'est un de ces jets que je n'ai pu retenir quand j'ai cru voir la chose publique en danger. Mais à travers la chaleur des idées, vous y trouverez le reflet d'une âme bienfaisante qui servirait de bouclier aux conspirateurs si le fer des assassins se tournait contre eux. Telle est la base de mon caractère que tout le monde connaît. Robespierre, tu viens de m'édifier. Tu nous apprends que tu as renoncé à la juste vengeance du droit que tu as contre tes accusateurs. Tu ne demandes que le retour de la paix, l'oubli des haines particulières et le maintien de la liberté. Quelle subite métamorphose! Toi, désintéressé? Toi, philosophe? Toi, ami de tes concitoyens, de la paix et de l'ordre? Je pourrais te citer cette maxime. Quand un méchant fait le bien, il prépare de grands maux. Cette ritournelle de ton ambition semble nous préparer une musique lugubre. Je puis me tromper, pardonne-moi. J'ai le fanatisme de l'amour de ma patrie, comme tu possèdes celui d'une ambition particulière.
Elle va vraiment risquer sa vie. C'est ça qui est très frappant, c'est que après la proscription des Girondins, le 31 mai 1793, elle était en province. Elle avait prévu de se retirer dans la région de Tours. Et cette nouvelle l'a glacée. Enfin, elle a dit, mais comment peut-on imaginer qu'une partie des députés de l'Assemblée soit jetée en prison ou obligée de s'enfuir? Et elle va entrer en résistance, véritablement, par rapport à la domination des Jacobins, enfin, et du comité de salut public, qui va édicter donc un certain nombre de lois, des lois qui lui paraissent être scélérates. Et elle va jusque en prison, puisqu'elle va continuer à écrire, y compris en prison, elle va s'insurger contre cela. Donc il fallait beaucoup de courage. C'est une femme qui n'est pas juste une femme qui s'intéresse à la politique comme ça en passant. C'est quelqu'un qui croit à ses engagements et qui va jusqu'au sacrifice de sa vie, puisqu'elle a été exécutée pour complicité avec les Girondins. À l'époque, il y a une loi qui réprime par la peine de mort tous les écrits tendant à établir un gouvernement autre que républicain, un et indivisible. Elle est vraiment condamnée à mort pour avoir publié une affiche qui s'intitule « Les trois urnes » et qui est une affiche de soutien aux Girondins. Et elle propose donc le choix par les Français du gouvernement qui leur conviendrait le mieux. Donc soit une monarchie constitutionnelle, soit un régime fédéraliste, soit une république. Et c'est ça qui va donc faire qu'elle sera condamnée à la peine de mort. Et non pas, comme on le dit parfois, pour ses engagements féministes, en fait, qui, au fond, n'apparaissent pas trop. Disons que ce serait peut-être une circonstance aggravante. Thank you.
moi, j'ai choisi de la mettre en scène, de la représenter dans ses différents espaces. Elsa Solal, dans l'espace intime, dans l'espace public, dans l'espace politique de l'action, aimant, pleurant, luttant, amoureuse, amie, mère. Voilà, j'ai essayé de montrer ces différentes facettes de ce personnage, puisqu'elle-même l'a vécu, y a laissé sa peau. Mais dans la pièce de théâtre, donc j'ai essayé de réfléchir à la manière dont je pouvais rendre compte le plus possible de cette liberté, de ce courage, de ces défaillances. C'est une héroïne, bien sûr, tragique et contemporaine, mais c'est aussi une femme qui pleure, une femme qui aime, qui parle à son fils, qui est déçue. Je me suis imaginée aussi, pour commencer l'écriture, je me suis imaginée Olympe à la veille de sa mort. Voilà. À un moment donné, il y a un choix dans l'existence, on porte ses idées jusqu'à quel point on les porte, et elle les a portées jusqu'au bout. Et je passe dans la pièce de théâtre d'un temps à l'autre, d'un lieu à l'autre, le lieu de l'enfermement, puisque les femmes sont enfermées, et elles particulièrement, de prison en prison. Et puis celui de son procès aussi, puisqu'elle est continuellement attaquée, autant sur ses œuvres que sur sa vie privée, aujourd'hui et en 1789.
Moi, dans ma mise en scène, j'ai souhaité que tout se passe sur un même plan. Alors, non seulement scénique, hein, puisque la scène est donc séparée en deux.
Anne Hivergne.
D'un côté, le XXIe siècle, d'un autre côté, le XVIIIe siècle, avec Olympe imaginaire qui va, elle, pouvoir passer de l'un à l'autre, faire des passages. Mais les deux protagonistes, enfin, Olympe au XVIIIe et Sébastien au XXIe siècle, restent dans leur siècle.
Alors vous avez choisi aussi, toutes les deux, de balayer l'ensemble de la vie d'Olympe de Gouges. L'idée, c'était de suivre une trame chronologique et de suivre un peu tous les combats, les grands combats, on va dire,
oui,
d'Olympe de Gouges.
Oui. Tout à fait, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une simple biographie.
Clarissa Palmer.
On ne voulait non plus que ce soit terriblement didactique, mais en même temps, on voulait que le public en sort en se posant justement des questions sur l'état du monde actuel. Et on voulait aussi que ce spectacle puisse vraiment aller un peu partout, le présenter à beaucoup de personnes différentes, que ce soit dans des associations, dans des collèges, enfin, que ça soit ouvert à tout le monde et que ça soit pas juste quelque chose dans un théâtre à Paris. Et ça, c'était vraiment une idée de base aussi, que ça soit pour ouvrir, justement pour faire connaître Olympe à des gens qui, en principe, ne sont pas intéressés par l'histoire, ne sont pas intéressés par la littérature, mais de voir qu'il y a des débats qu'on peut avoir autour des combats qu'elle-même avait. Je ne me rappelle plus, qu'est-ce qu'on fait avec un combat ?
Initié.
Oui.
En fait, on part de la Révolution, on va jusqu'à la Terreur, bien sûr, jusqu'à la mort d'Olympe. Donc, on n'aborde pas son enfance. Voilà. Voilà. Donc, on va travailler un peu par tableau, enfin par combat. Quand je dis tableau, c'est combat. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir, effectivement, ça part quand même dans un ordre chronologique, puisque ça va démarrer au moment où, enfin, elle va pouvoir être jouée sur une scène de théâtre, enfin, au théâtre français avec l'esclavage des Noirs. Et puis, tout se détruit parce que les colons l'attaquent sévèrement. Et donc, on va enchaîner sur tout le reste, c'est-à-dire sur le deuxième tableau qui va être son implication pour qu'on aide les personnes fragiles. Puis, on va passer sur son combat pour les femmes, pour la cause des femmes. Et puis, on va arriver sur le moment de la Terreur où, là, elle luttait contre la peine de mort, où elle ne supportait pas de voir ces guillotines se monter dans les rues de Paris et qu'on tue tous ces gens, parce que vraiment, pour elle, tuer des personnes était quelque chose d'absolument horrible. Et elle le pensait bien et elle le disait très fort.
Je vais là-dedans. Il y a la deuxième phase qui est le crayonné, à partir du découpage, donc les petits dessins très rapidement faits.
Là, voilà, on a une scène, par exemple, c'est avec Cubière, ça, Catherine Muller, ou une scène d'amour.
C'est avec Beatrix, là.
Ah, Beatrix, pardon. Ouais.
Voilà, qui justement est chauve quand il enlève sa perruque. Oui, parce que, justement, par exemple, voilà, on sait qu'ils enlevaient leur perruque le soir, qu'ils la remettaient le lendemain. Tout le monde était un peu coiffé pareil, ce qui était un problème, d'ailleurs, pour moi, parce qu'il fallait qu'on reconnaisse les personnages avec tous les mêmes coiffures, grosso modo, le même genre de boucles et de queue de cheval, le même genre de costume aussi. comme il m'a un petit peu quand même, je connais grosso modo la vie d'Olympe, on a pu se rendre sur les lieux où elle a vécu, où elle a grandi, etc. Et ça, c'est mon travail en amont, je prépare.
Katel Müller.
Donc je me suis rendue par exemple là à Montauban et j'ai fait des carnets de croquis, qu'on a d'ailleurs fait publier après, où on voit toutes mes recherches d'architecture, parce que c'est ce qui va me servir de décor. Elle aura quand même passé sa jeunesse là, et ça va représenter un tiers du livre, donc à environ 100 pages, voire 150. Dans cet endroit, il faut que je maîtrise l'endroit, que je connaisse l'architecture, que j'ai compris les rapports entre les lieux, c'est-à-dire la distance, par exemple, qu'il y avait entre chez elle et la place centrale, ou ses amoureux. À partir du moment où je suis allée sur place, que j'ai perçu l'ambiance et les distances, je m'approprie l'univers général du personnage et je peux rentrer dans sa peau et être elle en fait. Là j'ai fait Paris aussi, donc ce qui nous a permis aussi de comprendre des choses, par exemple d'aller sur place, ça c'est ce que des historiens n'avaient pas forcément compris, c'est qu'elle déménageait tout le temps. Alors j'avais posé la question à différentes personnes, pourquoi elle déménageait tout le temps? Elle était instable comme personne, elle avait la bougeotte, elle était prise par les événements, enfin il y avait plein d'explications différentes. Et en dessinant, je me suis juste rendu compte, j'ai fait les liens entre ses habitations et les endroits où elle travaillait, entre guillemets, puisque une femme ne travaillait pas à cette époque-là. Elle s'était entretenue, elle n'avait pas d'autre choix. Mais Olympe, tout en étant entretenue, bien que non mariée, elle était active, elle écrivait. Donc elle était toujours dans les cercles de pensée. Elle s'est installée directement en face de la Comédie-Française, place de l'Odéon, à cette époque-là. Mais quand il y avait des événements à Versailles, elle déménageait à Versailles. Quand ça se passait au Palais-Royal, elle habitait à côté du Palais-Royal. Quand il y avait Robespierre au Club des Jacobins, elle habitait rue Faubourg Saint-Honoré. Donc à chaque fois, elle allait déménager, en réalité, pour être à l'endroit où se passaient les choses. Et on a fait la relation avec Montauban, où pareil, elle habitait à côté de la place centrale où se passait tout. Et nous, on a interprété, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité, je crois, son besoin de bouger, de déménager, pas par hystérie ou par... C'était juste par obligation de se retrouver politiquement aux endroits où se passait l'action. Il y avait aussi l'histoire, par exemple, d'une scène chez le coiffeur. Comment ça se passe chez un coiffeur? Quel est le matériel? Comment est un fer à friser au XVIIIe siècle? Impossible de trouver un fer à friser au XVIIIe siècle. J'ai passé des jours et des jours avant de trouver ce fameux fer à friser, presque par hasard, beaucoup plus tard. Mais ça crée toute une ambiance, parce que le coiffeur, qui, pour le coup, c'est un peu la lutte des classes, c'est un noir affranchi à l'époque.
Alors ça, est-ce que c'est de la fiction ou c'est... Donc c'est un coiffeur effectivement noir, et donc on voit qu'elle entame une discussion avec lui, et c'est comme si elle commençait à sonder avant d'écrire sa pièce sur justement l'esclavage.
Mais c'est ce qui nous a permis justement, à partir de se faire affriser, de créer une situation où elle se retrouve pendant un long moment à parler avec quelqu'un qui a cette expérience-là. Et évidemment, ça nous permet de développer le sujet. Mais pour développer le sujet, il faut bien avoir les instruments. José Luis s'occupe des bulles et moi, je m'occupe des fers à friser. Et pour les bulles, justement, il a dû travailler en amont, évidemment, toute la situation des esclaves à ce moment-là. Et on sait qu'il y avait pas mal d'affranchis qui devenaient coiffeurs, justement. Ça, c'est en lisant sans doute les livres de Arlette Farge et d'autres qu'on a découvert comment se passait le Paris au quotidien, ça par exemple, mais d'autres choses, par exemple le mariage, la vie dans la rue, la saleté dans la rue à Paris, les embouteillages, etc. Il fallait reconstituer ça et lire un maximum parce qu'on ne trouvait pas ça forcément dans les images. Les peintures, c'est carrément des peintures allégoriques à cette époque-là, en référence à la mythologie ou des scènes un petit peu légères ou campagnardes. Mais la vraie vie est plutôt représentée dans les dessins dits de presse, qui sont la communication dans les journaux, donc ce sont des gravures, mais du roi, de la reine, de la politique, des scènes finalement de la Révolution, de choses comme ça. Et tout ce qui est du quotidien, c'est assez difficile à trouver. Donc il a fallu passer pas mal de temps l'un et l'autre à soit trouver des images un peu inédites, soit reconstituer à partir de descriptions.
Est-ce que vous vous situez bien sûr dans la fiction?
Oui, parce qu'à partir du moment où c'est un récit...
José-Louis Boquet.
On est dans la mise en scène. Il n'y a rien de faux, mais quand Olympe discute avec Mirabeau, Louis-Sébastien Mercier et Camille Desmoulins, alors oui... Là, c'est de l'imaginaire, mais on ne peut pas penser un seul instant qu'à Paris, au Palais Royal, qui est le centre du monde, elle est la meilleure amie de Louis-Sébastien Mercier, qui est le témoin de mariage avec Robespierre de Camille Desmoulins, et on sait, ça c'est avéré, que Mirabeau connaissait Olympe de Gouges. On ne peut pas ne pas penser à une époque où ils sont tous en pleine effervescence, juillet 89, qu'ils ne sont pas ensemble, de temps en temps, à discuter au troquet. Mais tout ce qui se dit, c'est-à-dire chacun des dialogues des personnages, ce que dit Camille Desmoulins dans cette scène, il l'a dit ou écrit. Il y qu'il n'y a pas un seul mot dans ces scènes qui n'ait pas été écrit et pensé par les personnages.
Je voulais qu'il y ait cette facette de femme amoureuse et amante. Et donc, je lui cherchais un amoureux qui soit digne d'Olympe. Et finalement, je me suis dit, cette amitié-là, et puis ce personnage qui a écrit de très belles choses, voilà, j'ai choisi Louis-Sébastien Mercier. Et le tableau 2, j'ai choisi quelque chose qui est arrivé, puisqu'à l'époque, on donnait des corrections publiques aux femmes qui participaient à la Révolution. Alors, cette histoire, c'est que devant la maison d'Olympe, il y a une foule attroupée qui est là pour lui donner une correction publique, comme on l'a fait à Thérouanne de Méricourt. Et quelle était cette correction publique à l'époque ? La fessée. Donc, ça dit beaucoup de choses sur l'humiliation, sur cette terreur-là. Ils se retrouvent, c'est des retrouvailles amoureuses. Il se trouve que le jour où ils se retrouvent, il y a cette correction publique. Donc, Mercier est pris à partie sans le vouloir. Il n'était pas là dans la réalité, mais c'est là où je suis. Je ne rappelle pas historienne, mais je suis écrivain. Et donc, c'est une vision personnelle que je livre, certes documentée, mais enfin, c'est une fiction aussi. Donc, ce sont des retrouvailles amoureuses. Elle parle de sa déception. La révolution n'a rien fait pour les femmes. La moitié de l'humanité a été oubliée de sa révolte. Elle est à la fois sur un fil, je pense, parce qu'elle sait qu'elle risque d'avoir la tête coupée. Et en même temps, elle continue cette lutte.
Affiche du 19 juillet 1793. Les trois urnes, ou le salut de la patrie par un voyageur aérien.
Le crime a enfin lassé ma patience. J'ai frappé ces hordes sacrilèges. J'ai remis les hommes au niveau de leurs droits. J'ai commencé par la France. Je ferai le tour du globe. Je finirai par les antipodes. Mais je veux épurer mon essai. Je veux écumer la Révolution française, semblable à cette liqueur qui, après avoir été couverte longtemps des immondices de tous les esprits qui l'avaient composée, devient un nectar, aussi agréable que salutaire. J'ai fait combattre le crime par le crime pour frapper l'un par l'autre. Il m'a fallu sacrifier de grandes victimes, mais c'est là mon secret. Les Français divisés combattent pour trois gouvernements opposés. Ils courent comme des frères ennemis à leur perte, et si je ne les arrête, bientôt ils imiteront les Thébains et finiront par s'entr'égorger jusqu'au dernier. Je veux qu'ils règnent sous de plus heureux auspices. Je ne veux pas qu'on dise dans la postérité qu'ont-ils su faire, les Français ? Égorger ? Massacrer ? Dilapider ? Épuiser le plus fécond, le plus riche des climats ? Je ne veux pas non plus que l'étranger, jaloux de leur gloire, avide de leur trésor, vienne envahir leur territoire. Ce n'est pas pour la mort de Capet, pour l'orgueil offensé des nobles, ni pour des hôtels renversés que les tyrans coalisés ont armé leurs esclaves. Ce n'est que pour morceler la France et éclipser sa splendeur. Ce n'est que pour affermir leur couronne qu'ils veulent mettre sur le trône non pas un roi de pique, mais un roi de carreau.
Avant même que l'affiche soit affichée, elle est embarquée.
José-Louis Boquet.
Procès, qui dure assez longtemps. Et elle se retrouve évidemment en face du fameux Fouquier-Tinville, l'accusateur public qui est resté dans toutes les mémoires de tous les enfants de France qui ont étudié la Révolution française à l'école. Fouquier-Tinville, c'est évidemment le gars qui envoie les gens à l'échafaud. Et c'est le proto-stalinien dans toute son horreur. Écrire ces scènes, elles sont très simples, parce que là, pour le coup, il y a toutes les minutes du procès. Et je pense que ce soit les biographes, que ce soit les au théâtre, que ce soit en bande dessinée, que ce soit en roman, on ne peut pas inventer et écrire mieux que ce qui a vraiment été dit. C'est-à-dire que là, cette séquence, tout le travail, on est quand même dans la bande dessinée, et que si on avait voulu faire l'entièreté du procès, ça prenait un tiers du bouquin, évidemment, on imagine bien. Donc tout le travail, ça a été plutôt d'arriver à en tirer la substantifique moelle, sans donner l'impression qu'on avait fait des coupes sombres, ce qui est le cas.
Voilà. Et vous avez choisi, donc, évidemment, de finir la BD. Donc, on voit même la scène où elle se fait couper les cheveux avant
on
la guillotine.
On est allé assez vite sur la fin parce que c'était quand même très, très, très glauque. C'était encore beaucoup plus glauque que ce que j'ai dessiné. Il y avait des rats dans la prison. C'était des conditions d'hygiène absolument catastrophiques. Mais c'était déjà tellement dur et pénible que j'ai un peu... j'ai pas édulcoré, mais j'ai pas rajouté des détails. J'ai juste travaillé plus noir, plus sombre, plus graphique. Et on est allé assez vite, en 2-3 pages, sur la procédure entre le moment où elle se retrouve abandonnée dans sa prison, lui coupe les cheveux, elle sort de prison, la conciergerie est noire, le cheval qui vient la chercher dans la charrette, etc. On connaît quand même toutes ces images, toutes ces personnes qui se sont fait embarquer à la guillotine. Et on avait alors là une chose intéressante comme description. On a su qu'à ce moment-là, ce jour-là, parce que la météo était écrite tous les jours, on a su qu'il s'est mis à pleuvoir. À pleuvoir des cordes même quand elle s'est fait guillotiner. Ça nous a permis de faire une ambiance qu'on peut imaginer être totalement inventée, parce que justement c'est tout à fait romanesque, mais c'est là purement la vérité.
Merci à Olivier Blanc, Katel Muller, José-Louis Boquet, Elsa Solal, Clarissa Palmer et Annie Vergne. Lecture, Hélène Losseur. Prise de son, Yann Frécy et Laurent César. Mixage, Manuel Couturier. Olympe de Gouges, une femme du XXIe siècle, un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard.
Nous continuons demain notre série d'émissions consacrée à Olympe de Gouges, mais plus largement à la question des femmes pendant la Révolution française. Et d'ailleurs, demain, nous traiterons de cette question précise. Quelle était la place des femmes dans cette révolution, avec des historiens qui viendront nous expliquer les dernières recherches à ce propos. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, mais également la télécharger pendant un an après cette même diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, et nous suivre sur Twitter. À demain.